J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Monsieur Mathieu Bédard. Bonjour, Monsieur Bédard.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes directeur adjoint. Ah, c'est long votre titre, hein, on va prendre notre élan. Directeur adjoint réadaptation, délinquance et hébergement jeunesse au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. Ouf!
Vous êtes pas mal bon, mais oui, c'est en plein ça.
Bon, bravo. Mais on va parler des familles d'accueil parce qu'il y a un grand besoin dans dans la région Mauricie, Centre du Québec, mais ce besoin-là, on le retrouve partout. Ce n'est pas qu'une situation mauricienne, Centre du Québec. Et il y a de plus en plus de besoins. Il nous faut des familles d'accueil et on voudrait qu'il y en ait davantage. Et vous avez lancé une campagne dans votre région pour aider à l'intégration de nouvelles familles d'accueil dans le système.
Absolument. On a, de façon conjointe, nous, avec la FARIC, l'Association des familles d'accueil, on a lancé une campagne qui s'appelle Créer l'étincelle. Donc, une campagne qui se voulait positive, qui se voulait intéressante et axée sur toute l'importance du rôle de la famille d'accueil à l'intérieur de la communauté, dans le fond, pour venir en aide au plus grand nombre d'enfants possible. Alors, évidemment que c'est une campagne qui touche le cœur. Je me permettrais aussi de dire que c'est une campagne qu'on a voulu axer aussi sur une vraie réalité. C'est-à-dire qu'on a pris 6 familles ambassadrices
Oh, d'accord.
qui sont de réelles familles d'accueil. Et pour chacun de ces familles-là, ils ont des histoires différentes, mais les gens de la communauté peuvent se reconnaître à travers les parcours de ces différentes familles-là. Et on a voulu vraiment rendre la campagne assez authentique, vraiment axée là, sur le vrai rôle que ces gens-là peuvent jouer auprès des enfants.
Parce qu'on peut lire des dizaines de pages de documents qui expliquent de façon formelle ou presque administrative comment ça fonctionne. Mais au bout du compte, c'est de l'humain. C'est des
Absolument.
enfants qui s'intègrent dans une nouvelle famille, une famille qui les accueille. Et c'est à ce niveau-là que le succès va jouer.
Vous avez absolument raison. Vous avez parlé d'humain. Moi, je vais toujours parler d'une histoire de cœur, hein, parce qu'au départ, c'est ça. On a quand même, nous, le devoir, à travers la campagne, de bien sensibiliser les gens, parce que des fois, les gens peuvent avoir des craintes, peuvent avoir des petites réticences, des doutes. Et c'est notre travail à nous de les amener à, un, bien comprendre quel est ce geste, qui est un geste si important. Et devenir famille d'accueil, c'est vrai qu'on est en grand besoin, mais je vais continuer de le nommer ainsi. C'est un privilège. Accompagner des enfants qui ont une histoire de vie déjà un peu, qui peut être perturbée, qui peut avoir toutes sortes de choses rocambolesques, ben, être une famille d'accueil dans la communauté et prendre soin d'accueillir un enfant comme ça, c'est en soi un privilège parce que la famille, dans son geste de cœur, peut transmettre un paquet de choses à cet enfant-là, assurer une continuité beaucoup plus stable peut-être. Amener de la sécurité, permettre à l'enfant de se développer dans un contexte le plus normalisant possible. Donc, évidemment que vous parlez d'humain, je vous rejoins, c'est un geste de cœur très important.
Parce que oui, cet enfant-là va grandir, va devenir adulte à son tour, va participer à la vie collective, va possiblement devenir parent. Et les valeurs qui auront été acquises vont être transmises à une autre génération. Alors, on travaille de façon, c'est important, on travaille pour la collectivité. Et il doit y avoir par ailleurs des mythes ou des choses qui reviennent souvent où les gens ont peut-être des idées préconçues sur ce qu'est être famille d'accueil. Et vous avez un processus d'éducation, là. Quelqu'un qui vous contacte pour peut-être que sa maison, sa famille devienne famille d'accueil, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Non, assurément que c'est une démarche qui est à la fois une démarche de réflexion de la part du couple ou de la personne qui veut devenir famille d'accueil. C'est une démarche quand même importante qu'on accompagne évidemment tout au long du processus. Les gens peuvent commencer par aller sur notre site. T'sais, si les gens avaient de l'intérêt, sont curieux, alors on peut aller sur le site devenirfamilledaccueil.ca, puis assurément qu'il y a déjà beaucoup d'informations. On a aussi des soirées d'information qui sont données presque à toutes les semaines, dans
D'accord.
lesquelles les gens peuvent s'inscrire, venir chercher des informations et ainsi poursuivre leur réflexion.
Est-ce que cette démarche-là, je m'excuse juste pour bien comprendre, cette démarche-là, est-ce qu'elle est propre à votre région Mauricie, Centre du Québec, ou si quelqu'un habite ailleurs pourra retrouver un peu le même genre d'intégration?
Là, c'est sûr que quand je vous parle de nos soirées d'information et de ces choses-là, évidemment, ça, c'est plus propre à Maurice Centre du Québec. Je pourrais pas m'avancer. Je sais que j'ai certains confrères qui procèdent peut-être un peu de la même façon.
D'accord.
Mais là, je veux pas m'avancer pour coincer des régions. On peut avoir différentes méthodes là, qui sont tout à fait adéquates.
Donc, quelqu'un qui veut un couple ou une personne qui veut devenir famille d'accueil, ben il y a d'abord cette première approche-là où dans le cas d'une soirée d'information, ben là, vous devez déboulonner des mythes puis dire donner des informations qui vont participer à la prise de décision.
Absolument. Puis l'autre chose, c'est que les gens qui souhaiteraient être dans une démarche réflexive en lien avec le fait de devenir famille d'accueil, comme je vous le disais, peu importe la région, s'ils viennent visiter notre site, il y a déjà beaucoup d'informations qui va être à peu près la même partout au Québec.
D'accord.
Alors déjà ça, c'est intéressant. Et après ça, effectivement, ben là, dans leur démarche réflexive, ils seront dirigés, évidemment, soit dans leur région respective, ou ça arrive que nous, on recrute même dans des régions un petit peu limitrophes. Ça peut arriver que des gens puissent être familles d'accueil pour nous, même s'ils sont considérés sur un autre territoire.
Et il y a aussi, il faut que la famille présente un milieu de vie qui soit, je dirais, apte à recevoir un enfant. Donc, il faut se qualifier comme famille d'accueil. Pardon, il ne s'agit pas juste que de vouloir. Il faut aussi être en mesure d'offrir l'accueil et, le soutien et de faire grandir l'enfant.
Oui, absolument, vous avez raison. Puis ça, c'est une nuance que je fais tout le temps qui est importante. C'est-à-dire, parce que des fois, il arrive par moment que des gens ont un élan du cœur, un grand intérêt, puis c'est tout à fait adéquat. Et que malheureusement, les gens en cours de processus se voient refuser le projet pour toutes sortes de raisons. Et des fois, ça peut être des critères. Il y a des critères parfois physiques, des critères qui sont très, très importants, desquels on ne peut pas déroger. Et là, évidemment, des fois, les gens peuvent réagir un peu à ça. Mais comme je le répète, en aucun temps, ça ne vient dire que les gens sont des mauvaises personnes ou que ce n'est pas adéquat. C'est que nous, quand on a l'obligation de confier ces enfants-là, on doit s'assurer de plusieurs critères, comme vous le mentionnez, qui viennent assurer, entre guillemets, là, un certain niveau de qualité et de capacité d'accompagnement pour ces enfants-là qui ont déjà un parcours, disons-là, qui est particulier. Là.
Qui est difficile. Donc, il faut que le milieu puisse les recevoir et, je dirais, panser leur plaie d'une certaine façon, là, émotive ou autre qu'ils ont subi depuis le début de leur vie. Alors, il faut que le milieu soit particulièrement, douillet.
C'est-à-dire que le milieu doit avoir des qualités de cœur importantes.
Oui.
Le milieu doit être capable, comme vous dites, penser les plaies, c'est une belle image, mais le milieu doit être capable de comprendre certains comportements que l'enfant peut avoir. Je dirais que dans la grande majorité, ça se passe très bien. Dans la grande majorité, on a des familles qui réussissent à amener une vie familiale tout à fait adéquate pour lesquelles les projets se passent merveilleusement bien. Il arrive certaines situations où les enfants peuvent présenter des comportements un peu plus rehaussés. Puis là, à ce moment-là, ben même nous, au cœur de notre organisme, on offre des soutiens à ces familles d'accueil-là.
Oui.
Puis on va au-devant avec eux, puis on les accompagne dans ce périple-là. Là.
Parce que c'est ça, c'est important que la famille d'accueil soit pas laissée à elle-même, parce qu'il peut y avoir des problématiques qui surgissent. Puis il y a des adaptations de part et d'autre là, à l'intérieur de la famille.
Tout à fait.
Ben, c'est important qu'il y ait des gens qui s'y connaissent puis qui connaissent les expériences de d'autres familles et nous aident à réagir de la bonne manière.
Absolument.
Il y a un autre aspect dont on ne parle pas, et c'est bien de ne pas en parler, mais en même temps, il ne faut pas le négliger. Il y a un aspect financier à ça. Ça coûte de l'argent avoir un enfant, puis de le nourrir, de l'habiller, d'offrir des loisirs, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait un soutien financier là-dedans.
Oui, ben absolument. C'est tout normé. Et habituellement, du moins de ce que j'entends, les barèmes au cours des dernières années ont bien évolué et les gens qui deviennent famille d'accueil n'arrivent pas en difficulté avec l'argent qui leur est octroyé pour s'occuper d'un enfant. Il y en a même dans certaines familles peut-être un peu plus nombreuses. Quand on passe là 4 enfants et plus, il y en a que c'est leur métier. Il y en a qui réussissent à vivre de ça avec les enfants. Donc, c'est quand même... Je dis pas que c'est une une forme de rémunération, parce que les familles d'accueil sont des partenaires. Donc, mais malgré tout, les enfants devraient, en tout cas avec ce qu'ils reçoivent là au per diem, là, devraient assurément avoir tout ce qu'il faut, tout ce dont ils ont besoin, que ce soit vêtements, nourriture, activités. La famille d'accueil ne devrait pas être affectée par ça d'aucune façon.
Et en même temps, il est important pour vous de vérifier qu'il n'y ait pas non plus, je dirais, un intérêt économique trop lourd de la part de la famille d'accueil, là. Les gens ne doivent pas faire ça, entre guillemets, pour l'argent. Ça ne doit pas être la motivation.
Non, exactement. C'est pas ça qui doit être le moteur, parce qu'habituellement, on le voit dans certaines situations, malheureusement, quand c'est plus ça qui prime, on peut se questionner des fois sur certaines gestions de l'avoir de l'enfant ou des choses comme ça, mais encore là, il y a des gens qui doivent être en vigie par rapport à ça de notre organisme,
du CIUSSS,
et qui vont vérifier ces choses-là pour s'assurer que.
Ça reste quand même
un minimum. La plupart des familles, comme je vous dis, font un geste de cœur et apportent là, ils répondent aux besoins des enfants. Ça, c'est clair.
Et ces besoins-là sont très variés parce que le vécu de l'enfant peut avoir amené toutes sortes de problématiques. On parle de maltraitance, d'abandon, de négligence, d'abus physiques, sexuels, de troubles de comportement, évidemment, qui va peut-être surgir à ce moment-là, de délinquance. Ça peut être des troubles cognitifs, ainsi de suite. Et comment est-ce que vous faites pour déterminer que... vous devez faire le travail pour déterminer que telle famille, ça serait davantage un enfant qui aurait telle ou telle problématique plutôt qu'une autre?
C'est-à-dire que faut savoir que chaque famille d'accueil est évaluée au départ. Alors, à travers l'évaluation, nous, on arrive quand même à bien cerner les gens, voir un peu quel est leur environnement, est-ce qu'ils ont déjà des enfants, etc. Et après, nous, notre travail, c'est ce qu'on appelle un travail clinique, c'est de faire ce qu'on appelle le meilleur pairage possible.
Oui.
Alors, c'est sûr que quand on envoie un enfant, on va tenter de faire un jumelage qui peut correspondre en fonction des besoins de l'enfant. À cela s'ajoute aussi ce qu'on appelle dans le processus, là, une grille d'évaluation qui
D'accord.
est faite et qui vient positionner les besoins de l'enfant clairement. J'ai pas le bon terme, là, je l'ai oublié, excusez-moi, mais dans les faits, cette analyse-là, elle est faite et elle vient pondérer aussi le besoin de l'enfant et tout ça est bien arrimé avec le plan d'intervention de l'enfant, etc. Donc, quand on se retrouve avec ça, on a des outils balisés qui viennent permettre ces analyses-là et ces suivis-là. Alors, et là, bien sûr, on y va avec les capacités des familles, puisque, comme vous le mentionniez bien, chaque histoire est un peu différente.
Oui.
Alors, on se permet, à travers l'évaluation, là, de bien accompagner les familles et de les solliciter à la hauteur de ce qu'eux sont intéressés à donner comme accompagnement. Puis nous, notre travail est de proposer un jumelage adéquat avec leur situation.
Parce que la présence de l'enfant à l'intérieur de la famille, ça peut être, parfois c'est temporaire, mais la plupart du temps, je suppose qu'on vise une certaine pérennité. L'enfant va grandir dans sa nouvelle famille. Et il faut voir la capacité de la famille d'accueil d'aller jusqu'au bout, si je peux dire.
Absolument.
Et sa flexibilité par rapport au type de problématique qui peut se présenter.
Absolument. Puis je vais même rajouter un élément, c'est-à-dire, vous avez tout à fait raison, nous, on doit travailler à long terme parce que ce qu'on vise, évidemment, c'est le moins possible de déplacement pour l'enfant.
Oui.
Parce que chaque situation de déplacement est une situation qu'on peut considérer comme traumatique pour l'enfant.
Exact.
Donc, c'est quand même majeur pour nous d'assurer une stabilité. Puis, au-delà de ça, on se doit aussi, au sens clinique, de ne pas proposer un projet à une famille d'accueil qui viendrait, soit nuire à sa propre réalité si elle a des enfants, ou même nuire à un projet qui serait déjà en cours.
D'accord.
Alors, je vous donne un exemple. Ça peut arriver des fois qu'une famille d'accueil prenne un premier enfant, lève la main pour un deuxième, et là, c'est notre travail d'évaluer si on place un deuxième enfant, est-ce qu'on va se trouver à nuire au projet du premier?
Ah oui, tout à fait. Parce que peut-être la capacité de la famille, c'est un enfant, malgré leur bon vouloir.
Exactement. Et ça, des fois, les gens comprennent moins bien cette dimension-là. On entend des fois dans les articles, les gens qui disent « Moi, j'ai levé la main, j'en aurais pris un autre. » On comprend, mais sachez qu'il y a des analyses qui se font, puis il y a des professionnels qui vont évaluer chaque famille. Et c'est là où il nous revient dans notre rôle professionnel de déterminer ce qu'on évalue à être adéquat ou pas, puis est-ce possible d'augmenter le projet de la famille d'accueil, comme je vous le dis, sans nuire à un projet qui serait déjà en cours, justement pour ne pas déstabiliser les enfants qui sont hébergés au moment de l'évaluation.
Et il y a un autre paramètre qui peut survenir, c'est la présence ou non des parents biologiques de l'enfant. Selon la situation absolument. Qui se présente, il faut être capable, si c'est le cas, de collaborer à titre de famille d'accueil et d'avoir dans le portrait, je dirais, une pluriparentalité. Il peut y avoir plusieurs parents au même enfant qui ont un rôle à jouer dans sa vie.
Oui, effectivement. Ça, des fois, il y a de belles histoires, comme il y en a des moins intéressantes. Comme je dis tout le temps, quand ça devient un petit peu plus tendu ou qu'il y aurait des enjeux, ben l'enfant a toujours un intervenant à la protection de la jeunesse qui est là. Donc, il y a un intervenant qui lui, va s'occuper de faire les interfaces et de gérer cette situation-là, si toutefois c'est le cas. Mais j'ai vu beaucoup de situations où le parent naturel est reconnaissant envers le travail que fait la famille d'accueil. Puis des fois, là, les gens réussissent à très bien collaborer ensemble. C'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment chaque histoire qui se construit au fil du temps.
Bien, ce qu'on espère, c'est qu'il y a de plus en plus de belles histoires qui en découlent, puis qu'on puisse permettre à sauver des enfants et en faire à la longue des personnes intégrées à la société, utiles, heureuses, et que tout le monde y trouve, je dirais, la chaleur du cœur. Je m'excuse, ma voix me quitte. Ben, là-dessus, on va se quitter aussi, M. Bédard.
Ben, M. Beauregard,
merci, vous êtes gentil.
Vous avez tout à fait raison. On va souhaiter une belle histoire de cœur pour tous ces enfants-là.
Merci.
Merci.